Filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Continuité ou rupture, le suspense bat son plein au Sénégal après le premier tour de la présidentielle hier. Épilogue d'un incroyable feuilleton qui a provoqué une crise politique majeure dans le pays. Pas de chiffre officiel pour l'instant, mais selon les médias sénégalais, deux candidats se détachent très nettement sur les 17 en lice. Amadou Ba, dauphin de Macky Sall, et Bassirou Diomaye Faye, opposant anti-système. Alors, y aura-t-il un vainqueur dès ce premier tour ou faudra-t-il attendre le second tour? La question reste entière. Les résultats globaux et officiels doivent être publiés au plus tard vendredi, mais Amadou Ba doit prendre la parole à la mi-journée. Silence radio pour l'instant du côté de Bassirou Diomaye Faye. Alors comment s'est déroulé votre dimanche électoral? La démocratie sénégalaise va-t-elle sortir renforcée de ce scrutin? On en débat dans une demi-heure. Vous pouvez encore nous appeler sur WhatsApp au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque jour, vos questions sur l'actualité à la rédaction de RFI. Charlie, bonjour. Charlie, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Vous nous appelez de Johannesburg en Afrique du Sud. À mes côtés en studio, Marine de la Moissonnière, journaliste au service international de RFI. Bonjour.
Bonjour.
Charlie, vous avez la parole, on vous écoute.
Ben, j'ai au moins deux questions à poser par rapport aux manifestations qui ont eu lieu à Cuba contre la pénurie de nourriture et le manque d'électricité.
Alors, quelle est votre première question?
Comment expliquer cette crise alimentaire? C'est d'abord ma première question.
Alors, Marine de la Moissonnière, on passera à la deuxième tout à l'heure.
Eh ben, vous l'avez dit, Charlie, ces manifestations, c'était à la fois pour des pénuries d'aliments et pour des coupures d'électricité. C'est ça, en fait, le manque d'électricité qui a provoqué ces manifestations. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, pourquoi ces coupures de courant? C'est parce que la plus grande centrale thermoélectrique de l'île est en maintenance depuis le début du mois et ça provoque donc ces pannes de courant. Et cette situation, elle s'aggrave encore plus à cause de la pénurie de carburant que subit tout le pays. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà, donc, il y a la grande centrale thermoélectrique, mais les autres centrales thermoélectriques de l'île, les générateurs et les 8 bateaux générateurs loués à la Turquie qui approvisionnent Cuba, eh bien, tous fonctionnent avec du combustible. Ces derniers temps, certains Cubains ont été régulièrement privés d'électricité, parfois pendant 14 heures de suite.
Ce sont donc les coupures de courant qui ont fait sortir les gens dans la rue, mais il y a aussi un problème de nourriture.
Oui, l'île manque de nourriture et de médicaments, et le peu qu'on trouve est très cher, alors que les salaires sont bas. Le gouvernement n'arrive pas à fournir les produits de base en théorie accessibles avec la carte de rationnement, comme le pain par exemple. Et puis, c'est la même chose pour le lait promis à tous les enfants de moins de 7 ans en échange d'un prix très bas. Le mois dernier, Cuba a dû demander de l'aide au PAM, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, qui lui a fourni des tonnes de lait en poudre.
Le pays traverse sa pire crise économique depuis 30 ans.
Oui, l'économie de l'île n'arrive pas à se relever depuis la pandémie de coronavirus. L'embargo américain s'est renforcé. Et puis, son système centralisé, cette économie contrôlée, planifiée par l'État, elle connaît des faiblesses structurelles. Le déficit budgétaire se creuse et le pays a de plus en plus de mal à produire et à importer des denrées alimentaires de base. Selon les chiffres officiels, la production agricole elle a chuté d'un tiers entre 2019 et 2023. Et puis, un autre élément à prendre en compte, c'est la réforme monétaire de 2021. Elle était censée attirer les investisseurs étrangers, mais en réalité, elle a encore plus compliqué le quotidien des Cubains, puisqu'ils doivent jongler avec 4 monnaies et vivre avec une très forte inflation. Les prix ont augmenté de 30% l'an dernier, là encore selon des chiffres officiels. Et ça alors que le salaire moyen est de 4200 pesos, soit 35 $. Un dernier chiffre pour bien comprendre la situation. D'après l'Observatoire cubain des droits de l'homme, c'est une ONG indépendante, près de 9 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté absolue.
Charlie, vous aviez une autre question pour Marine?
Oui, ma seconde question est la suivante. Comment les autorités cubaines répondent-elles à ces protestations.
Eh bien, elles y répondent par des arrestations, hein, selon le média indépendant 14CI Medio. 11 personnes étaient toujours détenues en fin de semaine dernière. D'autres ont été libérées, mais elles ont dû payer des amendes. Elles ont reçu des menaces, rapporte l'organisation de défense des droits de l'homme Cubalex. L'ambassade des États-Unis à Cuba a réagi dès dimanche dernier, hein, en postant un message sur X pour demander au gouvernement cubain de respecter les droits des manifestants. Message qui a provoqué de nouvelles tensions entre les deux pays et puis des passes d'armes à coups de messages incendiaires des deux côtés. Le président Miguel Díaz-Canel a ainsi estimé que Washington était derrière ces manifestations. Il a fustigé les terroristes basés aux États-Unis qui encouragent des actions pour déstabiliser le pays.
Et en ce qui concerne les causes profondes de cette crise ?
C'est la même réponse. Hein. C'est la faute des États-Unis, selon Cuba. Les États-Unis qui, avec leur embargo, privent l'île de devises et de carburant. La Havane dénonce une persécution énergétique de la part de Washington.
Merci beaucoup, Marine de la Moissonnière, pour ces précisions. Charlie, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Bonne journée à tous les deux. Franck, bonjour.
Bonjour, Chantal Leroux.
Vous nous appelez de Cotonou, au Bénin. En ligne avec nous, Pierre Benazet, correspondant de RFI à Bruxelles. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Franck, c'est à vous. Pierre est prêt à vous répondre.
Ok, merci. L'Union européenne envisage d'utiliser les revenus des avoirs russes gelés pour financer leur aide militaire à l'Ukraine. L'Union européenne est-elle en droit d'utiliser ses avoirs ?
Alors Pierre, il faut bien préciser que l'on parle des intérêts que rapportent les fonds russes bloqués à Bruxelles. Il n'est pas question de toucher au capital.
Effectivement, et ça fait la grosse différence. Les Européens ont déjà entamé ce mouvement. Il faut savoir que on parle ici des avoirs d'État, c'est-à-dire ceux de la Banque centrale russe. Ils sont gelés depuis l'invasion de l'Ukraine. On estime à près de 260 milliards d'euros à travers le monde ces avoirs. Et les Européens, effectivement, ne veulent toucher que aux revenus, aux bénéfices, aux intérêts dégagés par ces avoirs. Dans l'Union européenne, il y en a environ 210 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Ils sont depuis le 15 février déjà touchés par une interdiction, ces revenus, une interdiction de mouvement. Ils sont gérés par ce qu'on appelle des dépositaires centraux, c'est-à-dire des chambres de compensation aussi, par exemple, comme Clearstream ou Euroclear. On estime, par exemple, que rien que pour la Belgique, il y aurait 191 milliards d'euros d'État tenu par Euroclear, qui a son siège en Belgique. Ça représente 73% des avoirs de la Banque centrale de Russie. Et c'est là-dessus qu'on veut agir. Alors, il ne s'agit pas de confisquer, il s'agit de taxer. C'est ça que les Européens ont choisi comme base légale, en quelque sorte. Au lieu de confisquer les avoirs, on taxe les revenus, on taxe ses bénéfices. On veut les taxer à 97% de manière à pouvoir, eh bien, cette année, par exemple, dégager, on l'espère, entre le 15 février et le 31 décembre, environ 2,5 à 3 milliards d'euros maximum. 3 milliards d'euros, dont 90% seraient affectés directement à des achats d'armement ou du financement d'armement en faveur de l'Ukraine. C'est là qu'est la base légale, selon l'Union européenne, uniquement de la taxation et pas de la confiscation. Ça reste un peu compliqué, mais c'est effectivement là-dessus que les Européens veulent agir et ils estiment qu'ils vont pouvoir présenter une base juridique solide. Pas tout de suite, parce qu'il faut le temps de l'écrire. Ça fait quelques mois qu'ils ont commencé. Ils veulent que ça soit inattaquable.
Franck, vous avez une autre question pour Pierre Benazet.
Effectivement. La Russie a menacé de poursuivre les Européens s'ils passent à l'acte. Quelle est la marge de manœuvre des Russes ?
Pierre.
Alors, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans la légalité. En revanche, ce que la Russie peut faire, c'est faire des mesures miroirs, c'est-à-dire saisir des actifs européens, a priori des actifs d'État, puisque les Européens s'attaquent à la Banque centrale de Russie. Donc, on imagine que la Russie pourrait faire la même chose. On reste toujours sur ce plan de légalité, même si on a vu que Vladimir Poutine n'était pas forcément quelqu'un qui s'embarrassait beaucoup de légalité. Mais si on prend la légalité de l'affaire, on a bien vu que les Européens évitent de mettre le doigt dans ce qui pourrait constituer une violation à une convention de 2004 des Nations Unies, la convention sur les immunités juridictionnelles des États, qui stipule bien que les avoirs eux-mêmes ne peuvent être saisis des avoirs d'État. Ce n'est pas possible en droit international. Et donc, c'est ça que les Européens veulent à tout prix éviter. On garderait dans les organismes gelés de l'Union européenne et ailleurs dans le monde, on garderait ces fonds gelés. En revanche, leurs intérêts pourraient être utilisés s'ils sont taxés. Le but n'est pas de saisir ces avoirs parce que là, il s'agirait de réparation, comme par exemple l'Allemagne a pu en payer après la guerre de 14 ou la France après la guerre de 1870. Les réparations se sont faites, mais elles ont été faites à chaque fois avec l'accord des États qui devaient payer ces réparations. Or, en l'occurrence, la Russie ne veut évidemment pas donner ses avoirs pour réparer les dégâts causés en Ukraine, qui de toute façon représentent un montant supérieur à ce qui a été saisi. On estime à 411 milliards d'euros pour l'instant les dégâts en Ukraine. Or, il n'y a que 260 milliards d'euros d'avoirs russes qui ont été saisis. Mais... donc ça ne suffit pas. Et à la limite, ça peut durer plus longtemps.
Merci beaucoup, Pierre Benazet, pour ces explications. À très bientôt sur l'antenne. Franck, merci de nous avoir appelés. Bonne journée à Cotonou. On part pour Abengourou, en Côte d'Ivoire. Bonjour Alain.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
En ligne avec nous, Cédric Kaba, bonjour. Cédric ?
Oui, bonjour, je vous entends très bien, moi.
Vous êtes journaliste, président du CIRES, le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, et vous êtes l'auteur de « Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger ». C'est paru aux éditions de l'Harmattan. Alain, vous avez la parole.
Merci bien. Le Niger a accepté de rouvrir sa frontière avec le Nigeria. D'ailleurs, une très grande première depuis la levée des sanctions de la CEDEAO. Ma question est de savoir, comment peut-on expliquer cette décision alors que le Niger refuse cependant de rouvrir sa frontière avec le Bénin?
Cédric Kaba, la junte nigérienne avait invoqué il y a un mois des raisons de sécurité pour maintenir la fermeture de la frontière avec le Nigeria et le Bénin. Pourquoi décide-t-elle de rouvrir celle du Nigeria et pas celle du Bénin?
Ah non, la question est très intéressante. Il faut d'abord dire que le Niger a accepté que le Nigeria rétablisse la fourniture d'énergie, puisque comme on sait, le Niger dépend environ pour 70% de sa fourniture d'énergie du Nigeria. Donc le Niger avait accepté cela et a accepté la réouverture de la frontière aérienne. Il restait la frontière terrestre et pour des raisons que vous avez soulevées, les raisons de sécurité, le Niger s'était abstenu de rouvrir la frontière. Maintenant, le Niger le fait parce que, en réalité, la frontière avec le Nigeria reste la plus stratégique de cette frontière externe du Niger. Elle s'étend sur 1500 kilomètres. Elle part de Dosso au sud-est jusqu'à Diffa, au sud-ouest jusqu'à Diffa, au sud-est. Et sur les 8 régions administratives du Niger, 5 sont frontalières du Nigeria. À part la région administrative de Niamey, la capitale, la région de Tillaberi et Agadez, toutes les 5 autres régions sont frontalières du Nigeria. Si on estime en termes de population, au moins 60 à 70% des Nigériens sont concernés par les échanges avec le Nigeria. Parce que les régions les plus densément peuplées, Zender, Maradi, Tawa, sont des régions frontalières du Nigeria. Donc, quand on met tout cela dans la balance, ça explique l'enjeu stratégique pour le Niger de rouvrir la frontière avec le Nigeria. Et cette réouverture a été accompagnée par un certain nombre de mesures de sécurité. Les autorités, les gouverneurs de régions frontalières ont été appelés à la vigilance. Mais il était absolument entendu que le Niger ne peut pas garder la frontière avec le Nigeria plus fermée pendant plus longtemps qu'il ne l'a été aujourd'hui.
Alain, vous avez une autre question pour Cédric Kaba.
Oui, Cédric, la réouverture de cette frontière est-elle un signe d'apaisement des relations entre le Niger et la CEDEAO?
Cédric?
Je pense qu'il faut avoir une lecture bilatérale. C'est plus la considération des relations exceptionnelles entre le Niger et le Nigeria, au-delà des liens que j'ai évoqués, il y a les liens familiaux, les liens communautaires qui participent de l'explication. C'est plus la dimension bilatérale parce que, comme on sait, la posture des autorités de Niamey, c'est que nous, on n'est plus dans la CEDEAO. Tout ce qui concerne la CEDEAO ne nous concerne pas. Le 24 février, lorsque les sanctions ont été levées, il n'y a eu aucune réaction et il faut avoir plutôt une lecture bilatérale, même si du côté de la CEDEAO, on fait des efforts pour au moins ressouder le lien qui s'est distendu depuis le 26 juillet. Mais du côté de Niamey, on ne considère plus la CEDEAO, on considère la réouverture comme un acte bilatéral en raison des relations historiques entre le Niger et le Nigeria.
C'est dit que, en bref, en quelques mots, pourquoi en revanche le Niger maintient-il fermé sa frontière avec le Bénin ?
Je pense que c'est une question de timing. Le Niger a choisi de ne pas ouvrir en même temps les deux frontières, mais à brève échéance, la frontière avec le Bénin aussi va être ouverte. Parce que comme on sait, le Niger est un pays continental qui n'a pas de façade maritime. Le port le plus accessible aujourd'hui, c'est celui de Cotonou qui se trouve à 900 km de Niamey. Je pense que c'est une question de temps. Le pragmatisme voudrait que la frontière avec le Bénin soit ouverte et elle le sera bientôt.
Merci beaucoup, Sédi Kaba, d'avoir répondu à nos questions. Alain, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à tous les deux. En ligne maintenant avec nous, Stéphane Lagarde, le correspondant permanent de RFI à Pékin. Bonjour Stéphane.
Bonjour Chantal.
Alors, on avait des questions d'Alphonse pour vous, mais on n'arrive pas à joindre Alphonse à Kinshasa en RDC, donc c'est moi qui vais vous les poser, ces questions. Le chef de la diplomatie chinoise s'est rendu en Australie, signe d'un apaisement des relations entre la Chine et l'Australie. Qu'est-ce qui a mené à l'apaisement des tensions entre les deux pays et reste-t-il des points de friction entre la Chine et l'Australie, Stéphane ?
Alors, j'ai bien entendu les questions d'Alphonse. D'abord, bonjour, j'espère qu'il nous écoute là-bas. Ce qui a mené au rapprochement, c'est clairement le changement de majorité en Australie, le retour des travaillistes au pouvoir, c'était en mai 2022. Et puis, on a eu depuis des marqueurs de ce rapprochement, la libération d'une journaliste sino-australienne qui s'appelle Sheng Lei. Elle était accusée d'espionnage, elle a passé 3 ans sans liberté ici, sans voir ses enfants. Elle est rentrée à Melbourne en octobre dernier. Puis, il y a eu la reprise des importations chinoises d'orge, puis de steak australien. C'est important, ça, pour l'Australie. C'était en décembre. Et puis, ces deux visites miroirs, donc, les premières en 7 ans des chefs de gouvernement sino-australiens. Le premier ministre australien Anthony Albanese qui est venu à Pékin en novembre dernier à l'occasion des 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. Et la semaine dernière, vous l'avez dit, on avait donc Wang Yi, le premier ministre chinois à Canberra. Alors, cette reprise est évidemment très importante. D'abord pour l'Australie, Chantal, c'est important que les choses se stabilisent pour Canberra, car la Chine est le premier partenaire commercial de ce pays. Je vous donne un exemple, dans les choses qui coincent encore, des restrictions qui devraient être levées avant la fin du mois, normalement, c'est ce qu'a dit, qu'a laissé entendre en tout cas le Premier ministre chinois. J'ai vu l'un des représentants des vins australiens à la foire de l'alimentation et de l'alcool de Chengdu. C'est une foire qui a 110 ans. J'y étais vendredi dernier, c'est tout frais. Et il y avait le représentant des vins australiens qui m'a dit combien cette levée des sanctions était attendue par eux. Elle était importante parce que même en faisant l'addition des ventes de vins australiens en Europe et aux États-Unis, on n'arrive pas, disait-il, au nombre de bouteilles que les Australiens vendaient avant 2020. Si j'ai encore deux mots, je peux dire que quand même, d'abord 2020, pourquoi ? Parce que l'Australie a considéré à l'époque, le Pékin s'est fâché tout rouge avec l'Australie parce qu'ils avaient demandé une enquête internationale sur l'origine du Covid. C'est ça qui avait créé cette crise. Et puis le groupe chinois Huawei avait été exclu des réseaux australiens. Et puis comme souvent, donc plutôt que s'en prendre aux États-Unis, la Chine avait préféré faire pression sur ses alliés, donc l'Australie et le Canada. Ça va beaucoup mieux maintenant.
Mais est-ce qu'il reste des points de friction ou est-ce que tous les différents ont été aplanis, Stéphane ?
Non, alors justement, il y a encore des points de friction. Donc, je vous l'ai dit, il y a encore la levée, ça va être très très important pour l'Australie, la levée des sanctions sur le vin australien. Et puis, il y a aussi, par exemple, en tout cas Pékin, qui fait des remontrances à l'Australie en disant toujours qu'elle se méfie un peu de l'Australie dans l'Indo-Pacifique. L'Australie, vous le savez, est très présente. Il y a eu l'accord AUKUS, donc avec l'accord des sous-marins avec le Canada, la Grande-Bretagne et puis surtout les États-Unis. Donc ça déplaît à Pékin. Et puis, il y a aussi tout un tas de thèmes, quand même. Il y a encore les droits de l'homme, le Premier ministre australien a insisté là-dessus la dernière fois. Il y a tout un tas de choses qui sont sur lesquelles les deux pays ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est encore discuté, bien sûr, à chaque rencontre.
En revanche, la diplomatie du panda fonctionne toujours très bien ?
Oui, alors ça, oui, il y a pas de problème, ils ont pas eu le panda est toujours là-bas, ils vont renvoyer là, c'est ça, j'ai pas suivi Chantal, mais j'ai vu dans la presse qu'effectivement eux, ils n'avaient pas de soucis.
Les pandas qui avaient été envoyés en Australie vont pouvoir rester encore un petit moment.
Oui, voilà. Alors qu'on avait eu, vous savez, on a vu cette histoire de panda malade qui était revenu des États-Unis l'année dernière. Finalement, ça va mieux avec les Américains. C'est pareil. On devra avoir des pandas qui repartent dans l'autre sens. Effectivement, c'est très important. Alors, il y a la diplomatie du koala aussi, mais pour l'instant, Pékin n'a pas demandé de koala.
Est-ce que ce rapprochement en vue d'un partenariat stratégique global plus mature, stable et fructueux, je cite Pékin, a de quoi inquiéter les États-Unis ? En quelques mots, Stéphane.
Oui, parce que les États-Unis sont inquiets de ce qui se passe dans les mers de Chine méridionale. Alors, à mon avis, ça changera pas quand même les accords de défense entre l'Australie et les États-Unis. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une inquiétude. À chaque fois que les États-Unis voient un pays de la région se rapprocher de Pékin, ça leur plaît pas.
Merci beaucoup Stéphane Lagarde, correspondant de RFI à Pékin, pour cet éclairage. Alphonse, j'espère que vous pouvez nous écouter, que vous nous avez écoutés à Kinshasa. Bonne journée à tous les deux.